sur Radio Orient. Bonjour à tous, votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point d'actualité, la frontière entre Gaza et l'Égypte décrétée zone militaire fermée par Israël. Objectif, empêcher la contrebande d'armes via des drones. Le Maroc célèbre aujourd'hui les 50 ans de la Marche verte, un anniversaire dans un contexte nouveau après la résolution du Conseil de sécurité qui soutient le plan marocain au Sahara occidental. Enfin, notre dossier du jour sera consacré à la libération conditionnelle de Cécile Kohler et de Jacques Paris après 3 ans et demi de prison en Iran. Entretien avec le député Éric Botorel. Israël a déclaré la frontière entre Gaza et l'Égypte zone militaire fermée. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé cette décision pour empêcher la contrebande d'armes par drone. Cette semaine, l'armée israélienne dit avoir fait 2 tentatives de contrebande d'armes par des drones via la frontière avec l'Égypte. Des armes, notamment des pistolets semi-automatiques. Israël affirme que les restes du corps rapatrié de la bande de Gaza sont ceux d'un étudiant tanzanien. Son corps avait été emmené par le Hamas dans la bande de Gaza après son assassinat le 7 octobre 2023. Dans une lettre ouverte, le Hezbollah affirme son droit légitime à se défendre contre Israël. La formation libanaise rejette par ailleurs toute négociation politique avec ce pays. Cette déclaration intervient alors que l'armée israélienne continue de mener des attaques régulières contre le Hezbollah au Liban. Des attaques qui se sont intensifiées ces derniers jours. L'Égyptien Khaled El Enani, officiellement élu à la tête de l'UNESCO, il succède à la Française Audrey Azoulay pour un mandat de 4 ans, une élection sans suspense, puisque le Conseil exécutif avait recommandé sa candidature le 6 octobre dernier. C'est la première fois que l'UNESCO élit à sa tête un représentant d'un pays arabe. Khaled El Enani, égyptologue de formation, a été mis des antiquités et du tourisme. Enfin, la Cour des comptes épingle la gestion du musée du Louvre dans un rapport publié aujourd'hui mais rédigé avant le cambriolage du 19 octobre. Elle estime que les directions successives du musée ont préféré des projets plus visibles au détriment de la sécurité. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. L'anniversaire aujourd'hui de la Marche verte au Maroc, il y a 50 ans, le 6 novembre 1975, 350 000 Marocains entamaient une marche vers le Sahara occidental, une marche à l'appel du roi Hassan II. Cela a marqué le début de la lutte dans le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario. Mais 50 ans plus tard, un vote à l'ONU vient de changer la donne, François-Xavier de Calonne.
Et oui, et ce n'est pas un anniversaire comme les autres. À l'initiative des États-Unis, une résolution adoptée vendredi dernier a donné un certain coup de pouce au plan présenté par Rabat en 2007. La résolution qui donne son feu vert à une autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, une région riche en phosphate, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara dit attendre avec impatience une version actualisée du plan d'autonomie marocain, un plan qui doit désormais servir de base aux négociations sur l'avenir du territoire disputé.
Le Sahara occidental était une colonie espagnole jusqu'en 1975. Il est aujourd'hui contrôlé en majeure partie par le Maroc. Le Front Polisario, lui, est soutenu par l'Algérie, François-Xavier.
Et jusqu'alors, le Conseil de sécurité de l'ONU pressait le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie de reprendre des négociations. Elles étaient interrompues depuis 2019. Le Conseil plaidait alors pour une solution politique réalisable, durable et mutuellement acceptable. La résolution de vendredi est importante parce qu'elle témoigne témoigne d'une nouvelle énergie et d'une nouvelle détermination internationale pour résoudre ce conflit vieux de 50 ans, selon les mots de l'émissaire onusien Staffan de Mistura. Il va demander à toutes les parties de soumettre des propositions et des suggestions pour permettre à l'ONU de développer un programme de discussion directe ou, si nécessaire, indirecte. L'émissaire souligne que la résolution adoptée par le Conseil, saluée comme historique par Rabat, met en place un cadre basé sur le plan marocain, mais ne prescrit pas de résultat des négociations. Rappelons à tout le monde que s'engager dans des négociations ne veut pas automatiquement dire en accepter le résultat. L'important est, dit-il, d'y participer. Alors la suite dépendra aussi de l'attitude de l'Algérie, principal soutien du Polisario. Alger qui a porté la voix des Sahraouis au Conseil de sécurité vendredi dernier, mais qui n'a pas participé au vote. Alors s'agit-il d'une manière de ne pas s'opposer frontalement à Washington? Une question légitime. L'Algérie qui tente de se rapprocher des États-Unis pour consolider un partenariat économique et stratégique.
Merci François-Xavier de Calonne. Après le soulagement latent, les familles attendent le retour en France de Cécile Collère et Jacques Paris. Les Français qui ont été détenus pendant 3 ans et demi en Iran ne savent pas quand ils pourront quitter l'ambassade de France à Téhéran et retrouver leurs proches. Emmanuel Macron a demandé au président iranien leur libération pleine et entière. Le député Éric Botorel n'a pas cessé d'agir auprès des autorités et des associations pour tenter d'obtenir leur libération.
Dans l'après-midi, on avait les uns les autres quelques signaux faibles qui laissaient entendre qu'il pourrait se passer quelque chose et on était impatients que ça puisse se concrétiser. On avait des informations selon lesquelles le Quai d'Orsay devrait s'exprimer à propos de Cécile Collère. Et ça, c'était dans le courant de l'après-midi. Autant vous dire que avec une forme de fébrilité, mais en même temps d'espoir, on a passé, quand je dis on, ce sont les collectifs, les associations avec lesquelles je suis en contact, passé cette après-midi particulière qui a fini par, en soirée, être concrétisée par la communication du président de la République et de Jean-Noël Barrot pour nous confirmer et nous informer surtout de la mise en sécurité de Cécile Collère et Jacques Paris. C'est un énorme soulagement en effet.
En 3 ans et demi, comment évolue la pression d'un État pour obtenir une telle libération?
Il ne vous aura pas échappé que j'étais intervenu il y a quelques mois maintenant lors d'une session des questions au gouvernement pour obtenir du Quai d'Orsay que on puisse poursuivre l'État iranien auprès de la Cour internationale de justice. C'est un épisode qui a été un épisode de mise sous pression de l'État iranien et peut-être certains ont été surpris du renoncement que la France a opéré début de cet automne de la poursuite de la mise en examen devant la Cour internationale de justice de l'État iranien. Et ça fait partie des éléments qui contribuent aujourd'hui à les savoir libérés parmi tant d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas la moindre information, mais c'est la qualité du travail des agents et des fonctionnaires du Quai d'Orsay sous l'autorité du ministre Barrot. Et je sais aussi que le président de la République, à chaque fois qu'il a eu à rencontrer son homologue iranien, n'a jamais renoncé à évoquer le sujet de nos otages d'État et à exiger leur libération. Donc vous voyez, c'est une somme d'initiatives qui viennent être saluées par ce premier acte de libération.
Des initiatives qui ont émané au cours de ces 3 dernières années de collectifs et d'associations avec lesquelles vous êtes resté en contact, Éric Botorel. Leur action et votre action ont aussi été importantes.
L'action des associations incontestables, elle est toujours déterminante dans les sujets d'otages, que ce soit des otages détenus par des organisations criminelles ou otages d'État. D'abord, on le sait, par le retour des anciens otages, souvent les messages leur parviennent. Je pense notamment aux otages qui sont dans des schémas ou auprès d'organisations criminelles, ou parfois ils ont accès à Radio France internationale ou d'autres types de médias, pourquoi pas le vôtre. Mais en tout cas, ils savent qu'il y a effectivement une mobilisation nationale à leur égard. Et donc, c'est à la fois un message vis-à-vis de ceux qui les détiennent, les geôliers, les brigands, les crapules, et là en l'espèce l'État iranien, pour dire que il y avait au-delà de l'insistance du président de la République et de Jean-Noël Barrot derrière, toute une population derrière, la famille et les amis de Cécile Kohler et Jacques Parizeau. Donc oui, c'est la mobilisation citoyenne, la mobilisation des collectifs et d'associations de type SOS Otages ont été, comme toujours, clés parce qu'elles viennent s'additionner à d'autres initiatives d'autres natures.
C'était le député Éric Botorel au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Bonne suite de programme sur Radio Orient.